La Seine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour.
Eh ben, c'est André Duny, c'est toujours votre chroniqueur, fidèle au poste, hein, bien que un peu échaudé par les températures caniculaires. Hein. Rendez compte, à Lépin, sur la terrasse, 34 degrés, 36 à Paris, 39 à Perpignan. On n'a jamais vu ça, hein, 15 juin, 16 juin. Bon, bref, bah écoutez, ouais, bah c'est très bien, on peut se baigner avec Belette, hein, il n'y a pas de souci, on peut se baigner... partout, enfin peut-être pas dans le gué, hein. C'est plus tout à fait encore les bonnes températures, mais bon, ben, y en a qui trouvent ça super sympa, puis il y en a d'autres qui, comme moi, sans être un vieux grincheux, bien qu'en ALD, hein, affection de longue durée, et tentant de vous, comment dire, appeler, je sais pas si on peut dire, à la radio locale, associative, nous éveiller les esprits, voilà. Pour nous sortir de notre torpeur intellectuelle, parce qu'on est maintenu dans la torpeur intellectuelle, faut pas croire, hein, les dominants n'ont pas intérêt à ce que les intelligences s'excitent, hein, on n'a pas du tout intérêt à l'esprit critique. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on nous rend complices involontaires. Moi, j'aime pas critiquer mes contemporains en disant c'est des veaux, comme disait un certain général de Gaulle. Les Français ne sont absolument pas des veaux, le peuple encore moins, mais... on finit par devenir complice par une espèce d'atonie intellectuelle d'endormissement, d'assoupissement, de torpeur, de sieste intellectuelle. Quand il fait chaud, vous savez, et on se met dans un fauteuil ou dans un relax en bois de préférence, abriqué à Pont de Beauvoisin. Non, c'est fini, ça, c'est Ikea. Hein. Pardon, mais il y a encore des fabrications françaises en bois. Eh ben, on glisse dans une douce torpeur. Ben voilà, on nous glisse dans la douce torpeur, la reprise, tout va aller mieux. Les terrasses, enfin bon, quand même les terrasses. Excusez-moi, mais les gens qui travaillent sont pas tous aux terrasses. Hein, je vois Chambéry, c'est affolant. Plein de gens fichent rien toute la journée, qu'on y aille le lundi après-midi, le mardi après-midi, le jeudi après-midi. Et on voit des milliers de gens à glandouiller avec des sacs, avec des sapes à 200-300 euros des boutiques de luxe. Oui, bah c'est la France. Ça. La France, c'est 13 millions de riches. Hein, il faut pas croire moins. Hein, c'est 3 millions de millionnaires. Bon, bref. Et tous ces gens qui dominent, on peut dire, dans les 13 millions, il y a beaucoup de traîtres à leur cause. Hein. Il y a eu des duchesses rouges, il y a plein de gens qui ont trahi pour la cause de la Révolution. Hein. Que ce soit sous la Commune de Paris, pendant la Révolution française, la Révolution russe, il y avait quand même quelques comtesses rouges aussi. Bon, après, elles l'ont peut-être regretté avec le stalinisme, cette espèce de paranoïaque de Staline et tout le système tsariste maintenu communiste, quoi, on va dire, ou communisme. A coulé dans le moule du tsarisme. Ben, nous ne nous occupons plus des choses collectives. Hein. Donc la dernière fois, j'ai fait une petite émission sur les régionales, les enjeux des régionales. Quand vous m'écouterez, là, ben, ça sera passé, parce que c'est dans deux jours pour moi, là, qui officie le 18 juin. Je vais essayer de vous situer un petit peu quand je parle. Le 18 juin... on s'occupe plus que de nous, quoi. Prochain terrasse, prochain barboc, prochaine bière, prochaine baise, prochaine soirée, prochain pétard, prochain... Bah, oui, mais nous sommes le bétail des multinationales et des plus riches. Hein. Il faut pas l'oublier. Et que il y a de plus en plus de pauvres, il faut pas l'oublier. Donc la lutte des classes, ou appelez-la ça comme vous voulez. Voilà, il y a une erreur d'interprétation du Capital de Karl Marx. Hein. Des fois, il m'arrive de citer, c'est mon grand copain. Il y en a d'autres. Hein. C'est Gramsci aussi, hein, qui a été très très bien en Italie. C'est Castoriadis, très très bien en France, Bourdieu, etc. Tous ces gens-là nous disent, on est en torpille. On est torpillé, vous savez la torpille, un coup de piqûre de la torpille et hop, vous sombrez dans une espèce de torpeur, c'est ça la torpille, c'est l'art, et ce sont des torpilleurs, ils nous torpillent, ils nous font roupiller, voilà c'est ça, donc on s'occupe plus que de nos affaires perso, on court après, il faut dire qu'on a tous tellement de soucis, bon je ne vous parle pas des miens, hein, c'est pas le lieu. Mais on finit par se focaliser sur nous-mêmes à cause des soucis. Hein. Là, j'ai un bon copain, gilet jaune, ben voilà, il roule avec une vieille caisse, avec ses 1300 euros par mois. Et bilan des courses, je lui dis, mais attends, tes roulements, là, ça fait du bruit, il faut pas faire le con avec ça. Ben, il s'est arrêté au bord de la route parce que quelqu'un lui a dit, il y a votre roue, elle commence à tellement se balader de droite à gauche que vous allez finalement finir par la perdre. Ben, quand vous allez bosser sur Lyon, sur l'autoroute, que vous êtes à 130, vous perdez une roue. Parce que c'est arrivé, ça, que des gens voient passer un pneu devant eux, ils disent, tiens, c'est bizarre, il y a un pneu qui roule. Oui, non, mais c'est l'autre. Et le temps de réagir, vous êtes déjà dans la rambarde, et à 130, ben, ça pardonne pas beaucoup. Voilà. Nous nous occupons plus que de nos soucis, bien sûr, on en a beaucoup, mais on s'occupe beaucoup trop de nous et beaucoup, beaucoup pas assez, amis. Nous sommes pas du tout assez, bétail révolté. Comment dire, contre les injustices et tout ça. Alors si, on est révolté, hein, individuellement, on gueule, on machine, voilà, bon, bref. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on l'organise un petit peu plus collectivement et qu'on se bouge. Voilà. Comme vous allez voir, je vais commencer par vous donner des infos locales, puis on tâchera de revenir sur une très série de puissantes émissions documentaires de Arte. Vous savez, moi j'adore Arte. Pas le débat le soir là avec une sympathique animatrice, d'accord, mais bon, ça va jamais très très loin. Il y a des choses, bon, mais il y a d'excellents films. D'ailleurs, pour la torpeur, c'est pas mal des fois. Je me mets à regarder un très bon film. Et je suis saisi, étant extrêmement fatigué par les traitements hormonaux et rayons, du coup je m'endors devant un bon film d'artiste qui est tout ce qu'il faut pas faire, très mauvais, mais il y a de très très bons films, et surtout il y a des docus extraordinaires. Si le mardi soir, ne ratez jamais une soirée de mardi soir devant les thémas d'Arte. Thémas, c'est des thèmes hein, de documentaires, parce que les deux derniers, c'était sur ce que nous mangeons dans nos assiettes, donc en matière de poulet, en matière d'œuf et en matière de lait et de produits laitiers. Et je pense qu'on va y revenir avec l'alternative locale et nationale et peut-être mondiale pour essayer de sortir de cet empoisonnement lent. Donc il y a deux empoisonnements dans le système dans lequel nous nous trouvons, et c'est pas du tout de la fake news, hein. C'est du vrai, c'est du vérifiable, c'est par toutes sortes de moyens dont les médias, on y reviendra, nous sommes endormis, nous sommes torpillés, nous sommes en torpeur intellectuelle, et donc nous devenons complices involontaires d'un système qu'on ne conteste pas, donc on le laisse faire, hein. Et puis voilà, et puis il nous invite à nous focaliser sur la terrasse, le barbecue, les vacances, le Machu Picchu, la baie d'Along, la descente du Nil, le Ghana, Cuba. Maintenant c'est la grande destination, Cuba, ça me fait marrer, parce que quand il y a eu la révolution avec Fidel, il n'y avait pas beaucoup de gens pour la soutenir, mais maintenant Cuba est la grande mecque des gens qui veulent avoir de l'eau claire, manger bio et se balader cul nu sur une des plages de l'Est, ouais, la baie des cochons. Oui, mais oui, non, l'Ouest, la baie des cochons. Oui, mais la baie des cochons, elle a été envahie par les sbires formés par la CIA pour mettre fin à la dictature de... Enfin, ce qu'ils appelaient la dictature de Castro. Vous savez, à un moment donné, si vous vous attaquez vraiment au système qui vous domine, qui vous écrase, et tout en vous anesthésiant, désolé, mais... quand le bétail se révolte, je peux vous assurer que ceux qui ont du pognon, des avoirs, des multinationales par centaines de millions, si vous commencez à restreindre leur pognon, ils vont être très très méchants. Hein. Toute l'histoire a montré que tout esclave qui tente de se libérer, eh bien, on lui fait manger le caca d'un autre esclave parce qu'il a osé essayer de rompre ses chaînes. La Commune de Paris a osé rompre les chaînes du pouvoir. Napoléonien est un tantinet début d'une république, quoi, sanguinolente, on peut dire. On en a fusillé 30 000 quand même de braves parisiens, boulangers, ouvriers, employés, menuisiers, etc., hein, femmes de ménage. Voilà, on a fusillé 30 000, c'est pas si vieux, c'est un siècle et demi, hein, j'en ai déjà parlé. Quand les puissants sont mis en question, ils sortent le fusil, quoi. Donc, quand on parle de Cuba... Je retombe toujours sur mes pieds, hein, vous remarquerez. Il faut y aller doucement avec l'idée que c'est une pure dictature, Parce que vous ne pouvez pas, à quelques kilomètres de la côte américaine, les champions du capitalisme mondial, dont les intérêts sont pas que géostratégiques, hein, ils sont directement financiers. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui domine le pouvoir américain après avoir écrasé le mouvement ouvrier aux États-Unis ? Il y a qu'à voir 74 millions d'Américains votant Trump, qui était un milliardaire. Et pas n'importe lequel, un raciste, un blême, quoi. Beaucoup d'ouvriers ont voté pour lui, ça veut dire qu'ils ont réussi à mater la conscience des gens. Ils ont réussi à mater, parce que le 1er mai est né aux États-Unis, hein, il n'est pas né en Russie soviétique, il est né aux États-Unis. Il n'est pas né à Cuba, il est né aux États-Unis. Il y avait d'énormes luttes, hein, il n'y a qu'à lire Arthur London pour s'en convaincre. Mais aussi Les raisins de la colère de Steinbeck et le film qui en est sorti, c'est une misère noire aux États-Unis. D'ailleurs, il reste énormément de misère. Hein. On estime qu'il y a plus de 50 millions de gens sous le seuil de la pauvreté aux États-Unis sur 330 millions d'habitants. C'est quand même pas une paille dans la puissance la plus riche du monde. Donc, notre torpeur intellectuelle et nous, le bétail. Écoutez, je vais déjà parler d'informations locales, plus ou moins ravigorantes, hein, il n'y a pas que suffoquer sous la température. Hein. D'abord, première information, comme vous savez, dans notre tract, on y a fait allusion ici, des terres, pas d'hyper, des légumes, pas de bitume. Dans toutes les zones de Chartreuse et d'avant-pays savoyard, de Saint-Genis à Saint-Pierre-d'Entremont, du col de Porte au lac des Gueulettes, il faut pas sacrifier terre agricole et 4 hectares doivent être encore sacrifiés, je vous l'avais dit, à Pont-de-Boisin pour agrandir la baronnie avec encore du béton, encore du goudron, encore de la tôle. Et encore du commerce et encore des puissantes multinationales qui viennent ici rafler le peu d'autonomie alimentaire qu'il pourrait y avoir, ce qui va être un sujet de l'émission. Eh bien, une famille très riche, je ne vais pas dire, c'est d'ailleurs une famille liée à une de ces grandes sociétés, hypermarché, a fait appel et donc la mairie de Domessin a été en premier instant déboutée de sa volonté de construire, de classer constructible les 4 hectares pour faire la zone. Voilà, c'est les élus qui détruisent nos terres agricoles. Avant, c'était eux qui les protégeaient. Eh bien, c'en est bien fini. Les élus locaux sont les ardents artisans d'une industrialisation complètement démente au temps du réchauffement, des grandes températures, de la destruction du monde. On dit qu'il faut localiser, mais eux, ils veulent qu'on s'installe des grandes surfaces. Cherchez l'erreur. Et donc, ils ont fait appel de cette décision. Vous vous rendez compte, l'acharnement, ils veulent que le tribunal administratif leur redonne raison de mettre ces 4 hectares en route. Ça, c'était pour l'info locale. Mais bon, c'est pas gagné pour eux, et c'est pas gagné non plus pour nous. Moi, le premier, j'avoue ma fatigue, et j'ai fait à moi tout seul signer à peu près 1300 personnes, mais là, je fatigue, et donc il faut que le collectif nous fassions quelque chose d'efficace. Voilà, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous appeler au 06 75 80 05 119. Je transmettrai, nous sommes 3, à gérer une liste où il y a 130 personnes. La deuxième chose, c'est que nous aurons le 2 juillet, donc dans 15 jours, nous aurons 2 émissions qu'il ne faut absolument pas rater, hein, qu'il faudra écouter, je vous y invite. Nous aurons la Madame le maire, je vais le dire la mairesse, mais des Avenières. Alors c'est un petit peu loin, peut-être dois-je annoncer que quelques bonnes nouvelles, peut-être que Radio Couleur, nous en avons discuté avec sa directrice, voudra signer une convention avec Radio Chartreuse. Donc ce sera la 4e radio sur laquelle passera notre chronique, hein, chronique La Saine Cause, faite par moi, André Duny, son coordonnateur général. Donc Les Avenirs, loupez pas, c'est la nouvelle maire élue après le décès du maire qui a été maire pendant une 20aine d'années et qui est avec qui j'ai randonné, discuté. Vous voyez, je ne suis pas que acharné anti-élu, c'est seulement quand ils font des politiques néfastes à leur peuple. Et celui des Avenirs, je voudrais que nous regardions cette émission, nous écoutions cette émission qui sera Que peut un maire. Les Avenirs, c'est 7000 habitants. Et il a fait énormément de choses. Quand je dis il l'a fait avec sa population, avec des commissions, etc. Hein, évidemment, un homme ne refait rien du tout. Hein. Napoléon n'a pas conquis la Russie, comme disent les livres d'histoire. Parce que s'il n'avait pas avec lui un cheval, au moins un cordonnier et au moins un cuisinier, il ne serait pas allé loin. Hein. Et puis bon, il y avait l'armée française, hein, 600 000 ou 700 000 types. Et derrière, il y avait un bordel de plusieurs milliers de ces dames qui en enrôlaient, plus les cantinières, plusieurs milliers. Il faut une armée, il faut la nourrir, plus des artisans pour réparer les fusils, plus des gens pour transporter la poudre, plus des gens pour transporter les tentes. Vous voyez, Napoléon conquit la Russie, on se fout de notre gueule, parce que dans l'histoire, c'est les grands hommes. Non, c'est pas les grands hommes, c'est les peuples. C'est pas les grands-mères, ce sont les citoyens d'une commune qui font la commune. Mais quand même, aux Avenières, il y a eu un conseil municipal et un maire qui a fait plein de choses pour le bien public, pour le bien des habitants, et donc 2 juillet. 2 juillet, autre chose, je vous ai parlé des régionales et tout ça, nous aurons 3 gilets jaunes du coin. D'ailleurs, je fais appel à des gens qui se sentiraient dans ce courant pour venir enrichir notre groupe, éventuellement, de Chartreuse, avant-pays savoyard et Sud-Isère. Donc, ce seront des gens de Sud-Isère, de Nord-Isère, pardon, pas de Sud-Isère, de Nord-Isère, avant-pays savoyard, donc pas loin de la Chartreuse, et peut-être, si vous m'appelez, quelqu'un de Chartreuse pour élargir le groupe. Et donc, on va réfléchir, justement, comment la société civile française peut reprendre du poil de la bête, eh ben, ils sont en train de pas mal discuter, si j'en juge, parce qu'ils s'échangent sur les réseaux sociaux. Il y aura peut-être cet automne quelque chose d'assez chaud, non seulement de climat, mais de climat social. Et voilà, et qui nous sortira de notre torpeur intellectuelle. Oui, bon, ça c'était pour les informations, et donc je vous invite à vous reporter le 2 juillet. Le 2 juillet, le soir même, je ferai deux émissions, mais le soir même à Saint-Franc, bon, je l'annonce en avant-première, hein, j'ai concocté avec la ferme qui avait été interviewée ici, la ferme de la Berthe, que beaucoup connaissent parce qu'il y a une AMAP, parce qu'on y vend des choses, voilà, et ici expérimente une gestion collective à une dizaine, douzaine de personnes d'un lieu que Terre de Liens, qui a créé une foncière Terre de Liens pour sécuriser la terre pendant 100 ans, pour qu'elle reste bio et qu'elle soit cultivée par des jeunes gens venant des villes et faisant excessivement du bio. Donc là-bas, ils ont une AMAP, ils ont des cerfs, mais ils élèvent aussi des chèvres. Et il y a un excellent fromage de chèvre fait par Diane Fischer, qui était aussi artiste de cirque et qui fait des animations dans les écoles. Voilà. Donc, ce 2 juillet, venez-vous à la ferme de la Berthe, puisqu'il y aura un ciné-débat casse-croûte. Bref, un truc dont on rêve, là, de ce qu'on appelle un café. Un café où on mange avec un nuage d'art, de discussion et de pensée. Voilà, il n'y a pas que les terrasses où on lorgne sur le décolleté de la voisine, n'est-ce pas, et vice-versa. Sur la taille de guêpe d'un de ces messieurs, le café, le bistrot, le troquet, on s'y réfugie pas seulement en solitaire pour lire ou écrire ou rêvasser quelques minutes, ou justement, comme je le disais, boire un canon en terrasse, mais ce sont des lieux de mémoire, ce sera une sorte de café ciné-débat à Saint-Franc, à la ferme de la Berthe, le 2 juillet, ne le manquez pas. Alors, pourquoi je reparle des régionales? Parce que, voilà, je lis des chroniques partout, je lis beaucoup, et qu'est-ce que je lis? Quel combat les classes populaires ont-elles à mener ensemble face aux précarités, aux inégalités, discrimination, non-respect des engagements de la Convention pour le climat? Reculade jour après jour contre les engagements de la COP21 de Paris, qui en plus n'était pas non plus gigantesque. Bref, on n'atteindra jamais la neutralité carbone en 2050 que prétend vouloir atteindre l'Europe et la France. On ne sera jamais parti comme on est. On va cuire dans les tuves si le peuple ne prend pas le relais. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, ma copine Aurélie Trouvé, qui est porte-parole d'Attaque France, qu'il faut l'unité d'un bloc majoritaire de gauche qui rallie à nouveau les classes populaires qui se sont détournées des partis de gauche au pouvoir parce que ceux-ci ont laissé tomber leurs préoccupations. C'est s'appuyer sur les syndicats des salariés en lutte au-delà de leurs propres difficultés. Les salariés en lutte, voilà, les syndicats des salariés en lutte, c'est une façon de dire qu'il y a des syndicats qui ne sont pas de salariés en lutte et qui gèrent le système. Vous voyez où je regarde, hein. Notamment CFDT, des gens comme ça qui, bon, en gros, ça a été d'accord pour la réforme des retraites à points. Il y a un syndicat qui est d'accord avec Macron pour la retraite à points, comme disaient les Franc-Comtois, quand la France est emparée de la Franche-Comté qui appartenait à l'Autriche, en réalité la Franche-Comté appartenait à elle-même, hein, c'est une des régions de France les plus rebelles. Je connais, j'y ai bossé, hein, à la fac de Besançon. Il est quand même incroyable que le Comtois disait, quand le roi de France, enfin du moins ses sbires, lui disait « Comtois, rends-toi, que nenni, ma foi !» on bagarre pas beaucoup dans certains syndicats pour que les choses aillent mieux. Pire, quand on est allé au barrage de Vorep, je voulais peut-être annoncer ça, nous avons vu les syndicats tendre des micros à tous les hommes et femmes politiques du coin pour dire qu'ils étaient contre les privatisations, alors qu'ils ont privatisé pendant 30 ans, comme le Parti Socialiste. Voilà, ça craint un peu tout ça, ça craint énormément les partis. Mais enfin, il paraît qu'il faut qu'ils s'unissent. Les syndicats doivent s'unir aussi, même quand ils tendent le micro et qu'ils se réfugient dans la suite des partis. Ben non, il ne faut pas que les syndicats soient dans la suite des partis. Il y a eu un désastre, je ne sais pas comment le qualifier, quoi, de l'alignement de la CGT sur le Parti communiste. Un Parti communiste qui, à l'époque, quand même, était capable de mobiliser le peuple. mais qui, en ne voulant pas critiquer le système stalinien, eh ben, il s'est déconsidéré. Aujourd'hui, il tente de retrouver de l'air. Mais voilà, c'est pas en défendant les centrales nucléaires, la force de frappe, et en refaisant l'unité avec le Parti socialiste dans les communes pour garder des élus, que on va reprendre, comment dire, pied dans la cœur du peuple. Moi, il me semble que là, alors c'est refusé fermement toutes les surenchères sécuritaires. Voilà, ça, c'est contre le Front National. Je vais faire une émission hein, sur sommes-nous à la veille d'une remontée du fascisme en France. Bon, ben, écoutez, ce sera intéressant que je fasse cette émission, mais comme d'autres, elle est prévue plutôt pour la rentrée. Hein, la rentrée, on aura d'autres émissions de ce type-là, mais bon, pour l'instant. Alors, on est face, avec les régionales, dans un système des partis qui font leur unité pour certaines listes, mais voilà. Alors, elle dit, notre Aurélie Trouvé, que d'attaque, que j'aime bien, mais qui, bon, voilà, je suis pas trop d'accord. Une telle démarche radicale ne doit rien céder à la droite et à l'extrême droite, mais rassembler largement en prenant en compte l'ensemble des préoccupations et lutte des dominés. C'est gentil, Aurélie, t'es sympa, t'es une fille que j'apprécie, mais alors, dit comme ça, quelle leçon tirons-nous de ce qui s'est passé en France où il y a un réveil des mouvements populaires autonomes? Je veux dire que les Gilets jaunes, personne ne leur a dit de se mobiliser, ils se sont mobilisés. C'est le peuple lui-même, notamment les gens des campagnes, devant d'abord la taxe, mais qui ensuite très rapidement ont demandé un pouvoir de vivre et ont demandé à avoir voix au chapitre politique, non pas via les partis, puisqu'un parti c'est quelqu'un qui délègue, c'est quelqu'un qui prétend représenter une portion du peuple. Alors ça c'était peut-être valable dans les années 50, c'est vrai que les ouvriers votaient massivement pour le PC, ils étaient représentés, c'est vrai que la petite bourgeoisie votait pour le PS, et ils étaient représentés, c'est vrai que les chrétiens, notamment de droite, votaient pour le RP, pour le MRP, et ils étaient représentés. Mais maintenant, les choses sont complètement brassées. Si la lutte des travailleurs contre leurs dominants est de plus en plus forte, c'est ce que je pense, ça n'apprend plus la forme d'une lutte classe contre classe, je veux dire segmentée, et surtout pas la forme de classe populaire s'exprimant leurs intérêts à travers un parti politique. Alors, je ne vais pas... comment peut-on dire ? Il s'agit de bien regarder comment fonctionne la société. Alors, si vous me permettez, hein, bon, je ne vais pas être trop chiant hein, sur ce coup-là, mais quand vous regardez comment les partis politiques sont financés, d'abord, les partis politiques, ils sélectionnent leurs candidats parmi ceux qui sont les plus ardents dans ce parti, à pousser leur cause en avant. Deuxièmement, vous savez très bien que ceux qui poussent leur cause en avant, on peut toujours les soupçonner, mais pas tous. Hein. Nous avons eu des interviews là avec une mairesse de Chartreuse que je ne soupçonne absolument pas de se pousser en avant. C'est pas le cas. Mais il y a quand même des indemnités confortables. À la région, vous êtes conseiller régional, c'est 2000 euros par mois. Vous gardez votre retraite ou un revenu annexe, parce que vous pouvez continuer votre activité. Quand même, ça améliore les fins de mois. Ça vous fait quand même 24 000 de plus par an. C'est pas négligeable. Bah, si vous êtes vice-président de région, ça va être 3 000. Si vous êtes maire de Chambéry, 5 6 000. Il y a quelque chose qui fonctionne plus dans ce système où on peut soupçonner de course à l'échalote et au pognon ceux qui se présentent, comme mon maire de Lépin qui double à la première séance son indemnité de 500 à 1000 euros, quoi. Voilà. Alors, comment dire ? Dans les partis, c'est les partis qui sélectionnent eux-mêmes les candidats pour les... Mais non, c'est le peuple qui doit désigner. Alors, c'est ce que je vous avais dit à la précédente émission. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la société, on peut dire qu'il y a trois grandes composantes. Il y a une partie qui est la société économique. C'est ce qu'on peut appeler le mode de production, les forces productives, enfin bref, les entreprises, les grandes, les moyennes, les toutes petites, et les TPMI, les toutes petites entreprises. Voilà, comme par exemple un petit commerçant, etc. C'est tout du privé, pour l'essentiel, mais il y a une économie sociale et solidaire, dont une bonne partie, c'est la roue de secours du capitalisme, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi des SCOP qui fonctionnent très bien. Il y a 40 000 salariés en Rhône-Alpes qui fonctionnent en société coopérative. Tout le monde a voix à la direction de l'entreprise, en tout cas aux grandes orientations, un homme, une voix. Et vous avez des réserves impartageables, c'est-à-dire qu'ils doivent rester propriété de tout le monde, les réserves impartageables d'une SCOP, afin d'assurer sa pérennité. Donc ce n'est pas d'actionnaire, c'est simplement quand il y a des gros bénéfices, on les partage soit en augmentation de salaire, soit dans les réserves impartageables pour assurer la pérennité de la boîte. Donc ça, ça fait partie de la société économique, dont l'essentiel est de la société purement capitaliste, à tous les sens du terme, du petit capitaliste. Allez, on va pas le dire, mais on va le dire quand même. Petit plombier, zingueur et compagnie, qui, bien sympa, hein, m'escroque de 170 euros pour réparer juste un flexible derrière une chasse à eau, un samedi soir, bon, vous êtes coincé, le CSL 7e, il est là, c'est pas normal du tout de vouloir faire des ronds, ou celui qui, dans un café de Pont-de-Voisin, me dit, moi, si je gagne pas 5000 par mois, je bosse pas. Bon, d'accord, mon copain, mais bon, bac plus 10, bac plus 5, bac plus 3, tu gagnes autant qu'un ingénieur, et tout ça, ben, t'es obligé d'escroquer les mémés, hein, bon, alors, ça fait partie, ça, de la société économique, du petit plombier qui essaye de faire ses ronds, mais il y en a des honnêtes. Hein. Les électriciens aussi, il y a des honnêtes. Hein. J'en connais un, il n'a jamais construit sa maison à Pont-de-Voisin parce qu'il faisait des prix corrects. Mais j'en connais d'autres, moi, qui allument et un max, hein, et puis qui demandent du noir, des machins, enfin, chaque fois qu'on peut faire rentrer la monnaie. Voilà, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand le capitaliste a acheté nos têtes, hein, il achète notre intimité avec, vous l'avez vu, Amazon et poupées gonflables, mais il achète aussi notre morale. On n'a plus de morale, on court après le pognon. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'un gars qui a 1300 euros par mois, qui ne peut pas payer la réparation de son roulement parce que sa roue va se barrer, qu'il court après le pognon. Mais il est bien obligé de payer les 600, 700 ou 800 euros de sa réparation. Je ne parle pas de la course au pognon chez les gens du peuple qui courent après le pognon, justement pour pouvoir faire vivre leur famille ou survivre eux, pouvoir tout simplement aller au boulot. Et pourquoi ils prennent leur bagnole pour aller au boulot? Ben parce que les trains, un tiers arrivent en retard ou n'arrivent pas du tout ou ne se présentent même pas en gare. Vous avez un nombre incalculable de trains à Saint-André-le-Gaz et ils sont annoncés mais ils se présentent pas. Vous avez un horaire sur Internet, mais c'est pas le même à l'Épin-de-Lac. À Pont-de-Beauvoisin, on vous donne le trafic, manque de bol. Le train annoncé, il a une demi-heure de retard. Vous pouvez pas aller bosser dans votre entreprise si le train n'assure pas sa régularité. Bah, tous les services publics en France étant devenus privés, la SNCF y compris, on a désossé l'État au service des multinationales, hein. Et bien du coup, ça fonctionne pas. Donc on appelle société économique cette partie de la société qui est, les entreprises. Voilà, avec la discipline du travail, hein, il faut arriver à l'heure, il faut partir à l'heure, donc faut, voilà, et qui a son système répressif, bien que le code du travail, longue conquête ouvrière et populaire, ait été démantelé, il reste encore pas mal de droits de ne pas se faire chasser simplement parce que sa tête revient pas au patron, parce qu'on veut créer un syndicat. Voilà, alors ça, c'est une partie de la société, c'est la partie économique. Et dans cette économie, on a une sorte de structure sociale, parce que si d'un côté il y a des patrons, de l'autre il y a des ouvriers, n'est-ce pas? S'il y a des employeurs, de l'autre il y a des employés. Donc ouvrier-employé, ça forme 40, 50, 55% de toute la structure sociale. Donc ce qu'on appelle les classes populaires. Donc d'un côté, société économique égale entreprise et classe populaire, puisque la propriété renvoie... La propriété des moyens, elle renvoie à la structure sociale qui est celle des classes. Et puis vous avez l'État. Deuxième partie de la société, là c'est 5 millions de fonctionnaires, c'est énorme. Donc l'État, il dirige à la fois par coercition la police, la justice, l'armée, etc. Et puis aussi par l'idéologie. Il y a des radios d'État, il y a des télévisions d'État, payées plus ou moins par notre taxe, mais c'est quand même des télévisions d'État, dans lesquels l'État fait pression pour assurer la pérennité du système économique, puisque l'État s'est créé pour expandre le système économique, en gros. Mais l'État, il est aussi le lieu d'amples luttes dans lesquelles le peuple dit non, non, mais ça, ça va pas. Vos lois, c'est que pour les propriétaires et les bourgeois. On veut des lois en faveur du peuple. Donc, il y a un compromis du rapport de force qui amène des fois à créer une sécurité sociale en 1945, à l'initiative d'un ministre communiste, à l'initiative surtout de la résistance. Mais dans la résistance, il y avait un max de communistes. C'est eux qui ont le plus de fuyés. Enfin, bref. Si on regarde bien l'histoire, d'où on vient, il faut vraiment qu'on comprenne que dans l'État, s'il y a eu, alors la sécurité sociale, c'est pas l'État, puisque c'est nos cotisations qui directement servent à ceux qui en ont besoin, qui sont malades ou à la retraite. Mais, si vous voulez, le droit du travail, c'est pas les patrons qui ont octroyé à leurs ouvriers du droit. C'est des conquêtes qui sont passées dans l'État. Donc, dans l'État, il y a une partie coercition terrible et il y a une partie qu'on appelle l'État social. Et voilà. Et puis il y a une partie qui est aussi état éducateur, on peut appeler ça, avec les médias, avec l'école, surtout avec l'école où l'État donne le ton de l'idéologie officielle. Hein, voilà. Ben si vous regardez, si vous regardez l'histoire de France, franchement, ça craint, ça pêche. Hein, sur Napoléon, ça pêche. Rétablissement d'esclavage, on est discret. Si vous regardez Commune de Paris, moi, sur 130 étudiants, dans un amphi où je faisais le cours de sociologie, par exemple, alors, qui est-ce qui a entendu parler de Commune de Paris? Vous aviez 10, 12 mains qui se levaient sur 130 personnes, même pas 10% se souvenaient vaguement qu'il y avait eu une Commune de Paris. On écrase la mémoire du peuple au profit de la mémoire des puissants. I remember, babe, Donc l'État, il est aussi celui qui donne de l'idéologie à sa société, qui la dirige, soit par coercition, soit par idéologie, soit par, donc on appelle ça le consentement, la fabrique du consentement. Voilà. Et puis vous avez, troisièmement, la société civile. Alors, les copains, ça veut dire simplement que c'est une trame complexe d'institutions, de traditions culturelles, de mouvements, de modes de vie, du folklore, de cafés, d'associations. Il y a beaucoup d'associations là-dedans. Il y a des collectifs, il y a des mouvements, il y a des informels, il y a des écrivains, il y a des poètes, il y a des chanteurs. Bref, encore que le chanteur, il passe tout de suite dans la société économique quand il, comme Johnny Hallyday, il monte une société, ou comme Clo-Clo François, qui monte des sociétés et qui brasse des centaines de millions, hein, ou des dizaines de millions, disons, peut-être pas exagéré, mais des dizaines de millions. En clair, voilà, eux, à ce moment-là, ils deviennent entrepreneurs et ils passent dans la société. Mais quand vous faites un petit groupe et que vous allez faire une soirée, vous êtes dans ce qu'on peut appeler la société civile artistique. C'est une association, c'est un groupe, c'est un mouvement, c'est un syndicat. Donc les syndicats, les associations, les mouvements, les collectifs, tout ça fait partie de ce qu'on appelle la société civile. C'est ce truc vivant et riche qu'on peut appeler le peuple. Et on appelle populisme le fait de s'appuyer essentiellement sur la société civile. Alors, il peut y avoir un populisme de droite et d'extrême droite, il peut y avoir un populisme de gauche et d'extrême gauche, mais ça veut dire que le peuple est là. Et ce peuple qui est là est reconnu par toute l'histoire du mouvement des idées du XVIIIe, puis de la Révolution française, comme le seul souverain législatif. Le souverain législatif. Ça veut dire quoi? Que l'autorité doit émaner du peuple. Soit elle émane d'un tyran, mais ça je l'ai déjà expliqué. L'autorité du peuple, c'est de faire la loi. C'est dans la Constitution française. Alors, soit par délégation, auquel cas c'est foutu, vous allez voter dimanche à même pas 40% tel que c'est annoncé, pour des gens qui doivent vous représenter, mais ils ne vous représentent pas, puisqu'ils sont sélectionnés, pas par vous, ils sont sélectionnés dans des partis, et vous n'avez aucun contrôle sur eux. Ils vont vous voter écologique, ils vont vous faire un truc à la Mormoneux, vous votez droite, ils vont vous faire, des fois sous la pression des gilets jaunes ou autres, ils vont vous faire un truc de gauche, vous votez pour la gauche, ils vont vous privatiser tout le bazar, comme à partir de 83, et vous retrouvez qu'une politique de droite ayant voté à gauche. Voilà, le système, il est malade. Donc cette société civile, elle doit s'exprimer si on veut que ça change. Et donc, il ne s'agit pas d'attendre les élections. Et donc, pour revenir à Aurélie Trouvé, que je salue bien sympathiquement, hein, mais c'est une discussion d'idées, il ne s'agit pas de faire une unité des partis politiques, même pas des syndicats, pour dire que il faut une démarche radicale qui prenne en compte les intérêts du peuple de France, c'est-à-dire de la société civile française, contre les multinationales ou contre les grands patrons français. Non, peut-être qu'il s'agit vraiment que la société civile se prenne en main elle-même. Voilà. Et donc, qu'il se crée des coordinations. Ben, l'idéal, dans ce modèle-là, enfin, c'est pour un idéal, c'est un modèle qui a fonctionné en France, sous la Commune de Paris, où on choisissait ses candidats et on n'attendait pas qu'ils se présentent, et où on les élisait, mais en délégation, en mode impératif, c'est-à-dire, voilà, eh ben, les Gilets jaunes, avec le référendum d'initiative citoyenne, proposent la même chose. On fait une loi pour pas plus de salaire à 10 000. Eh ben, tous ceux qui gagnent plus de 10 000, ils doivent reverser à l'État qui redistribue. Alors à l'État, ou peut-être à d'autres systèmes, comme la Sécu, où vous ne reversez pas à l'État, la Sécu, vous reversez à un tronc commun, un pot commun, qui s'appelle l'assurance sociale, l'assurance maladie, l'assurance retraite. C'est un pot, c'est pas l'État, c'est un pot. Eh bien, un pot, ce n'est pas un impôt, c'est un pot commun. Un peu comme les tontines, vous savez, quand 10 africaines qui veulent transformer un peu leurs légumes, elles font une tontine, c'est quoi? Ben, chacune met 1 euro, Ça fait 10 euros. Bah, avec ces 10 euros, il y en a une qui s'achète une machine à broyer. Bon, je mets 1 euro, ça peut être 10 euros. Hein. Elles mettent 10 euros. Bon, elles ont 100 euros à 10. Elles tirent au sort celle qui pourra acheter l'appareil à faire, par exemple, je sais pas, moi, des soupes. Et voilà, et les bocaux qui vont avec. Voilà. Puis après, elles vont cotiser pour avoir un frigo. Eh bien, elles vont mettre chacune 10 euros ou 20 euros. Elles vont avoir un frigo de case et ainsi de suite. Ça s'appelle une tontine. La sécurité sociale est une tontine. C'est pas l'État. C'est en Allemagne que l'État s'occupe de sécurité sociale. Mais pas en France. En France, c'est une conquête de solidarité ouvrière qui date il y a bien longtemps, même début de la révolution industrielle au 19e, où quand il y avait un désastre dans une famille ouvrière, par exemple, je sais pas, les mineurs, puisque la révolution industrielle commence avec l'emploi massif du charbon, des machines à vapeur, eh bien, quand un ouvrier restait au fond et qu'il laissait une veuve avec 5 enfants, vous savez ce qui se passait? Eh ben, 5 familles ouvrières prenaient chacune un enfant. Voilà. Et la veuve prenait un enfant, parce qu'elle pouvait pas s'en occuper de 5. Elle prenait un enfant, les 4 autres allaient dans les familles. Et ils avaient fait ce qu'on appelle des sociétés de secours mutuels. Les fameuses sociétés de secours mutuels, c'est les ancêtres de la sécurité sociale. Tout le monde cotisait 10 euros, et on venait en aide à la veuve. Hein, voilà. Ou bien on faisait des aides, mais c'était organisé, auto-organisé par le mouvement. C'était pas l'État. L'État, il en a rien à foutre. L'État, il faisait simplement le monde piété pour ceux qui avaient plus de pognon, ils allaient mettre leurs bijoux et contre le dépôt des bijoux, on leur prêtait un peu d'argent. Ou l'État faisait la charité, hein, il faisait des hôpitaux pour les riches, bien sûr, mais aussi des endroits où bon, on pouvait contre paiement, n'est-ce pas, être soigné. Mais c'était pas, on n'était pas remboursé de quoi que ce soit, comme après la création d'un sécu. Ben, les sociétés de secours mutuels, voilà. Alors, moi, je dirais à Aurélie Trouvé, ben non, il faut que la société civile se bouge. Pour les partis, ben, je trouve scandaleux que pour ces élections régionales comme nationales, n'importe qui peut mettre 4500 euros d'aide aux partis. C'est la loi de financement des partis. Vous entendez bien, 4500 euros. J'ai le droit, moi, si j'ai de l'argent, de mettre 4500 euros au parti de M. Wauquiez ou au Parti Socialiste ou ce que vous voudrez. 4500, c'est vrai en une fois. Bon, enfin, si j'ai une femme, si j'ai de la famille, des amis, je peux dire à chacun, une dizaine, une quinzaine d'amis qui partagent la conviction, de mettre chacun 4500. Bon, mettons 10, mettre 4500. Excusez, ça fait 45 000. Avec 45 000, vous faites des tracts, vous vous déplacez, vous louez des chapiteaux, vous faites des meetings, vous baladez de partout, payez des gens pour mettre les tracts dans les boîtes aux lettres. Ah là, ça marche, ça roule. Mais si vous voulez un candidat populaire régional, vous pouvez pas, parce que le candidat populaire, les populaires, ils vont mettre 10, 20 euros. Alors, combien il faut de populaires pour faire 4500 euros? Eh ben, il faut, si vous mettez 10 euros pour faire 4500 euros, il faut 450 personnes mettre 10 euros. Comment vous allez faire? 450 personnes mettent 10 euros, ça fait 4500 euros. Un seul riche met 4500 euros pour aider le parti de M. Wauquiez ou de qui vous voudrez. Et ça fait un bon pactole. Voilà, c'est ça la loi de financement des partis. Elle donne aux riches tous les pouvoirs. Donc, en fait, les partis politiques sont financés par les riches. Voilà, et les partis politiques pauvres, ben ils ne peuvent pas se faire entendre. Et la société civile, eh ben elle regarde. Eh ben elle regarde tellement qu'elle ne va même pas voter. Pourquoi elle ne va pas voter? Parce qu'elle n'a aucun pouvoir. Donc, il est temps de redonner à la société civile son pouvoir de voter par le RIC les lois. C'est ça. Alors, référendum d'initiative citoyenne, bon, la Suisse en est peut-être une caricature. Hein. Ça veut dire qu'il faut du débat. Donc, il faut des médias qui permettent de dire, voilà, pourquoi on veut une loi où personne ne gagne plus que 10 000? Ou qu'on veut une loi qu'on veut vraiment isoler les maisons massivement, mais d'abord en commençant par les HLM, ou qu'on mette des chauffe-eau solaires sur les HLM pour réduire la facture d'eau chaude. Il faut des lois là-dessus. Si c'est un référendum que vous avez sur 49 millions de votants en France, 35 millions qui disent on veut des chauffe-eau solaires sur les HLM et on veut l'isolation des HLM, je suis désolé, ça devient exécutoire. Et c'est le peuple qui aura fait la loi. C'est pas une convention citoyenne tirée au sort, c'est bien sympa tout ça, et qui va dire voilà, il faut isoler les maisons. Voilà, ben, et après, le gouvernement, il fait quoi? Il n'isole pas les maisons. Il met tellement de conditions que c'est une galère pour isoler. Puis il fait appel à des entreprises payées par Total pour pour compenser ses émissions de CO2, puisque la loi lui dit qu'il doit compenser. Donc c'est du massacre, on isole mal, on fait un tas de boulot à la va-vite juste pour respecter sa réglementation. Non, il faut une politique cohérente, elle sera faite par le référendum d'initiative. Et moi, ça me troue les fesses, pour dire les choses, que un mouvement comme ATTAC, j'ai été adhérent d'ATTAC dans les années 2000, n'est même pas l'idée de soutenir le référendum d'initiative citoyenne, en l'assortissant bien sûr de la condition qu'on puisse exprimer dans les médias pour faire valoir que personne ne gagne plus de 10 000 ou qu'on doit isoler et mettre des chauffe-eau solaires sur les HLM. Parce que si on faisait ça partout, on économise 200 euros par mois pour les pauvres. C'est-à-dire, c'est comme s'ils gagnaient 200 euros de plus. Ou bien qu'on décide que... voilà, on prend 10% par un des impôts progressifs sur le revenu, on prend 10% au moins sur les revenus de plus de 5 000 euros, c'est-à-dire 500 euros. Franchement, quand vous avez 5 000, si vous perdez 500, vous n'allez pas vous suicider. Par contre, quand vous avez 501 euros de RSA, cette saloperie qu'on appelle le RSA, c'est-à-dire avant c'était un revenu minimum garanti, hein? Bon, ben maintenant, c'est un RSA, c'est-à-dire que il faut que vous prouviez que vous cherchez de l'emploi, mais il y a 8 millions de chômeurs. 8 millions, il manque des millions et des millions de postes de travail partout en Europe et en France. Comment vous allez trouver du travail? On se fout de la gueule des pauvres en disant, ben, si vous bossez pas, soit que vous êtes des feignants, des inaptes, des inintelligents, des nullards, mais en plus, les copains, on va vous donner une aumône avec 500 euros, tu vis pas, tu crèves, quoi, la gueule ouverte, gentiment. Tu payes pas tes loyers, les loyers, les dépenses contraintes, gaz, électricité, loyers, ça a augmenté. Ben, avec 500 euros, mon gars, tu dois montrer que tu cherches un boulot. Ouais, du boulot, il y en a pas, du boulot. Je connais des gens, ils ont fait 120, et puis surtout si t'habites une banlieue, alors là t'es complètement stigmatisé, ils ont fait 120 curriculum vitae, CV, et ils ont eu zéro réponse, 120 pour zéro réponse, il n'y a pas de boulot. Voilà, c'est le système capitaliste qui crée la catastrophe, qui crée la catastrophe en informatisant, en robotisant toute la production, en la centralisant et surtout par la mondialisation, en faisant bosser le Roumain à 280 euros le SMIC ou le Bulgare maintenant, puisque c'est ça la relocalisation en Europe, un chauffeur routier à 250 euros le SMIC par mois, 4 fois moins que notre SMIC. Et ben voilà, ben c'est ça la moins-value sociale, et c'est toujours le même système. En clair, c'est au peuple, comme au Chili, à prendre en main sa destinée par l'intermédiaire de référendum, que l'élu qui n'aura pas respecté le contrat soit destitué. C'est ce fameux référendum de destitution, révocatoire, on l'appelle, le référendum révocatoire. On fait une liste de gens qui n'ont pas tenu leurs promesses ou qui ont trahi, ils sont révoqués. C'est le référendum constitutionnel. On fait une constitution comme au Chili, où on dit « il y en a marre de la domination des puissants ». Voyez, c'est tout simple, mais ça demande une sacrée réflexion et ça demande que nous nous bougions tous ensemble sur des trucs collectifs. Pour les élections, moi j'ai rien à dire sur le plan local, mais c'est pas l'unité des partis qui va régler le problème, c'est pas les partis, c'est le peuple. Il faut, alors les partis peuvent donner un coup de main, parce qu'il y a des gens très bien, notamment nos amis élus là de la Chartreuse, que je connais, ou du parc de Chartreuse, mais ils viennent en appui, à ce moment-là, à la société civile. Si on crée un collectif comme on a créé à Pont-de-Voisin, ce collectif est apolitique, au sens, il n'y a pas de parti politique dedans. Par contre, si tel ou tel parti politique veut nous soutenir, il peut mettre 500 euros dans la caisse ou 200 euros, il peut tirer les tracts, il peut, voilà. Mais il ne fera pas la politique. Il aidera le peuple à faire la politique, c'est-à-dire à faire la loi, ce qui est la base de la démocratie. Le peuple est le souverain législateur, constitution de la République française. Je vous remercie. Appelez-nous et faites-nous part de sujets que vous voudriez voir en priorité, parce que ça se bouscule au portillon. Merci, merci. 06 75 80 05 79. André Duny, votre chroniqueur, et j'aimerais bien être aussi votre porte-parole. Alors, je vous rappelle, donc, la 2 juillet, deux émissions, un redépart des Gilets jaunes, de un maire, que peut un maire, exemple aux Avenières, 7000 habitants, et le soir même, à la ferme de la Berthe, comment aller vers une autonomie alimentaire collective et immunisante en période de catastrophe climatique et bancaires. Merci et bien le bonjour chez vous.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.